Et nous retrouvons avec plaisir notre amie Marie-Ange Kouki.
Bonjour Valérie, enchantée d'être à nouveau ici.
Marie-Ange Aizo Merletti. Voilà, vous avez pris des couleurs, c'est bien.
C'est le printemps, Valérie. Il y a les petites fleurs.
Mais va tuer gourne, comme je dis. Bon, voilà, on tient ou tient ou mica. Justement, on va parler, on va revenir en plus aux idées. Ça, tout le monde a. Maintenant, tout le monde dit les pervers narcissiques. Tout au monde, on habille tout. Oh non, alors que c'est vraiment quelque chose de très, très, particulier. Très particulier. Alors, vous m'avez dit, Marie-Ange, si j'ai bien retenu la leçon, la notion de narcissisme, elle vient du nom du héros, j'ai bien travaillé, de la légende, qui est le fils d'une nymphe et d'un fleuve. Il devient amoureux de sa propre image. C'est Narcisse. Voilà, il s'approche tellement de la rivière, il va se noyer, Narcisse.
Oui,
il
en plus,
tombe.
Il est raconté dans les Métamorphoses d'Ovide.
Oui.
Narcisse, il tombe, c'est le héros de la légende. Hein. Il est le fils d'une nymphe et du fleuve.
Et du fleuve, voilà. C'est ce que vous m'avez dit. Hein.
Voilà. Il tombe, il se noie et de sa mort naît une fleur qui s'appelle le Narcisse.
Jolie fleur.
Jolie
c'est une fleur.
Fleur
blanche.
C'est une fleur blanche.
Oui. Marie, n'ayez pas peur de tomber sur le micro, hein, Marie-Ange.
Allez, d'accord.
Vous n'allez pas vous noyer dans le micro d'RCFM. Hein. Bon, alors ça a été repris par la psychanalyse, tout ça?
Oui, cette histoire d'un garçon qui tombe amoureux de lui-même a inspiré certains psychanalystes qui en ont fait un concept, le trouble de la perversité narcissique. Donc c'est vraiment introduit en psychanalyse.
Vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors moi je me suis documentée avec des mémoires, beaucoup de lectures. Voilà, donc cette émission, ce sont des recherches sur lesquelles je m'appuie. On doit l'étude de la perversion narcissique à un homme, Paul-Claude Racamier. C'est un psychiatre psychanalyste, né en 1924, décédé en 1996.
Ça rigole pas, on travaille dans notre
exactement.
Émission.
Exactement. Il a utilisé et théorisé la notion de la perversion narcissique dans un article publié dans une revue de psychanalyse en 1987.
Alors il s'est inspiré, il paraît, des premiers travaux de Freud.
Oui, tout à fait. Donc Paul-Claude Racamier, ce psychiatre psychanalyste spécialisé dans les psychoses et les psychopathologies, s'est inspiré des travaux et concepts de Freud pour construire la définition de la perversion narcissique.
Et il a fait de nouvelles découvertes par rapport
à
Freud.
Il a fait des nouvelles découvertes par rapport à ses recherches sur la schizophrénie en 1980. Il découvrit la perversion narcissique et ses travaux ont fait l'objet de beaucoup plus d'attention et continuent à inspirer les professionnels qui ont travaillé auparavant sur la perversion narcissique.
Alors, il y a d'autres professionnels, Marie-Ange Kouki, qui ont travaillé sur ce trouble de la personnalité narcissique.
Oui, Alberto Eger, notamment dans un ouvrage que vous pouvez lire, Le pervers narcissique et son complice, qui date de 1989.
C'est un livre de référence.
De référence. Et à la différence du psychiatre, psychanalyste Racamier, Eger se concentre sur la description du pervers narcissique du point de vue de son comportement et de celui de son statut social. Et il s'appuie sur des témoignages de couples ou autres personnes dites victimes.
Quel est le descriptif de la perversion narcissique? C'est ça la question.
Oui. Alors, nous en rencontrant au travail, dans les familles, auprès des amis, certains ont des troubles, on va dire, ont des troubles, pas vraiment de perversion narcissique, mais on va dire que certains aspects, mais il ne faut pas faire une généralité en disant systématiquement il est pervers narcissique, non.
Oui, parce que maintenant on l'entend
voilà,
un peu,
c'est à la mode,
souvent d'ailleurs.
Même un petit peu trop souvent. Alors il y a une phrase de Jean-Paul Sartre qui définit involontairement mais parfaitement ce que serait le pervers narcissique. Avoir besoin de la souffrance des autres pour exister.
Ah.
Donc la perversion narcissique est constituée et formée étymologiquement de deux notions, la perversion et le narcissisme.
Tout simplement.
Voilà, souffrir pour exister.
Donc c'est la définition de la perversion narcissique.
Oui. Et la perversion, c'est une notion freudienne du XXe siècle qui vient du latin pervertar, qui signifie intervenir ou inverser. Et d'après Racamier, il ne faut pas confondre cette notion de perversion avec celle de perversité, qui est un mode de construction de la personnalité lié à un problème de narcissisme. Donc ça n'a rien à voir avec la perversion. C'est vraiment un trouble de la construction de la personnalité lié à un problème de narcissisme.
Eh bien, on avance petit à
on
petit.
Avance.
Hein.
À demain, Valérie.
pour la suite. Merci Marie-Ange Jecoux, qui en ben, on va reparler du même thème. Demain, on vous retrouve avec plaisir sur RCFM et vous pouvez podcaster cette chronique et la réécouter à volonté. À demain. Bonjour Marie-Ange Jecoux.
Bonjour Valérie.
Alors voilà Marie-Ange, d'abord je suis heureuse de vous retrouver. Mais
moi aussi,
on va continuer
Valérie.
À creuser un peu
ce thème.
Un sillon, celui de la perversité narcissique dont on parle beaucoup. On a commencé à l'expliquer hier avec vous. Si j'ai bien compris Marie-Ange, le trouble de la personnalité narcissique, il appartiendrait plus au domaine de...
C'est... Un trouble de la personnalité.
D'accord.
L'aspect pervers est caractérisé par une volonté, un plaisir à dominer, à détruire l'autre pour imposer sa toute-puissance. Et la dimension narcissique est marquée par une relation de soi fétichisée. Autrement, on devient le fétiche de soi-même. Eh ben, Narcisse.
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 Le fameux Narcisse.
Oui.
Alors le narcissisme... défini donc, c'est ça l'amour de soi ?
Oui, mais enfin, intensément, exagérément, puisque le narcissisme désigne l'amour de soi, qui constitue au début une phase normale de la constitution de la personnalité de l'enfant. Mais là, c'est vraiment un trouble de la personnalité narcissique, dans lequel un individu se manifeste par un besoin excessif d'être admiré, par un manque d'empathie. Et les symptômes apparaissent normalement au début de l'âge adulte. Le sujet narcissique recherche une gratification en lui-même. Il s'attache peu ou pas du tout au jugement des autres. Il est très focalisé sur ses problèmes personnels de puissance, de prestige. Et là, le trouble de la personnalité est étroitement lié à l'égocentrisme.
Est-ce qu'il y a des symptômes, docteur Marie-Ange Jecoux, de la perversité narcissique ? C'est quoi les symptômes ?
Écoutez, moi là, je suis toujours dans les recherches.
Vous êtes comme nous, vous cherchez.
Oui, les recherches. Donc, il y a, paraît-il, 5 symptômes. Le sujet a un sens grandiose de son importance. Il surestime ses réalisations, ses capacités. Il s'attend à être reconnu comme supérieur. Sans avoir accompli quelque chose, hein, en rapport. Hein. Ensuite, il y a l'ego surdimensionné. Il est absorbé par des fantasmes de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté, de perfection ou d'amour idéal. Il s'énerve facilement. Après, il peut séduire, bien sûr, quand on ne répond pas à ses désirs ou à ses besoins. Et son arme, c'est la parole.
Terrible.
C'est une arme, la parole.
C'est terrible. Donc, en fait, ce sont des symptômes.
Oui, la personne s'énerve facilement quand on ne répond pas à ses besoins, à ses désirs. Et il manipule subtilement. Il pense être spécial, il ne veut pas être pas compris, il a besoin excessif d'être admiré. Il pense que tout lui est dû.
Socroge.
Voilà. Il commence oui. par une séduction narcissique, un jeu pour ensorceler. Il obtient la confiance de la victime, de l'autre, homme ou femme, hein, parce qu'il y en a autant en homme que femme. C'est une manipulation qui lui permet d'expulser ses propres angoisses, qu'il essaye de faire couver ailleurs, c'est-à-dire chez l'autre. Il projette son propre mal-être.
On est dans la projection.
Sa projection.
Aux idées, donc, attention. Alors que cette personnalité narcissique, elle exploite donc l'autre dans les relations ?
Oui, les mensonges, parce que le trouble de la perversité narcissique, la personne veut parvenir à ses propres fins. Donc il y a des mensonges, il y a des chantages, il y a des violences verbales, il n'y a aucun respect pour les autres, qu'il considère comme des objets utiles à ses besoins de pouvoir, d'autorité. Ça sert ses intérêts. Il fait des promesses qu'il ne tiendra pas.
D'accord.
Sachant que les promesses n'engagent que ceux qui croient, hein, pris en flagrant délit de mensonge, ils sont capables de nier avec un aplomb hors du commun. Donc, ils manquent d'empathie, ils envient les autres, ils cachent les informations, mais ils font preuve de séduction.
Donc, et c'est ça qui est terrible.
Tout à fait. Ils peuvent être arrogants, hautains, ils réussissent à manipuler, à créer un élan positif, et il faut qu'ils se rendent aimables. Mais ils changent de masque suivant les besoins, tantôt séducteurs, tantôt manipulateur. C'est très, très fin et très pervers.
Oui, l'autre n'est donc qu'utile, en fait. Eh bien, on n'est pas sorti d'affaire. On va continuer demain. Bon, on rigole, mais c'est un sujet très sérieux,
oui,
parce
ça,
que c'est
oui.
grave.
Et on peut
c'est souffrir, pour ça qu'on rigole, d'ailleurs.
On peut souffrir parce que souvent, on en rend compte sur le chemin.
Oui.
Et on s'en rend compte beaucoup oui, oui. plus tard. Après, il faut se faire aider.
Il faut voir voilà, un spécialiste, si vous oui. nous écoutez, bien sûr. Hein, pour, parce que l'emprise, c'est pas
oui,
rien. Ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, bien sûr.
La déprime, le mal-être.
Voir les violences. D'ailleurs,
oui.
on parle des violences
verbal.
Faites aux femmes. Ou verbales.
Verbal.
Ou psychologiques. Bon, Marie-Ange Jecoux, c'est pour ça qu'on essaye d'être un peu légère, parce que c'est un
oui,
sujet
parce
lourd.
Que c'est un sujet qui est lourd et difficile.
Et on va vous retrouver, bien entendu, demain sur
demain,
RCFM.
Valérie.
On peut podcaster cette chronique et la réécouter sur notre site, chronique Belle Anima à découvrir. Marie-Ange Jecoux qui est avec nous sur RCFM. Marie-Ange, elle boit son petit verre d'eau, fait
d'eau
du sport,
pure.
Elle est arrivée en jogging. Non, en jogging.
Presque, en tennis.
pour notre chronique Bella Anima. Bon, écoutez, on prend les choses avec légèreté, Marie-Ange, parce qu'on parle d'un sujet qui est quand même assez lourd,
oui.
Celui des personnalités narcissiques, ces personnalités, une personnalité qui met en place des dérives de manipulation. Alors, il y a le chantage, il y a la culpabilisation, la flatterie, le mensonge, la dévalorisation, ça change hein, en fonction.
Oui.
La reséduction sous le charme, oui. L'enfer, quoi.
C'est comme si l'autre devenait l'hôte du venin. Alors, Racamier, il donne une image du fonctionnement du pervers narcissique. C'est comme un insecte qui pique sa victime de la même façon que le venin qu'il injecte. Et le trouble à la personnalité narcissique, c'est comme une pompe à énergie. Le pervers se sert de toute l'énergie de sa victime, qui ne se défend plus à un certain moment contre les attaques perpétrées.
Parce qu'elle est anesthésiée.
Anesthésiée, elle est sous emprise, il ou elle. Hein. La personne perd peu à peu ses défenses psychiques. Et dès que le lien est créé, la personne est rentrée dans un lien de dépendance. Et ce dernier continue à manipuler avec la communication, qui est paradoxale. Or, certains s'énervent, certains gardent le contrôle. Certains vont avoir des violences verbales. Et après, c'est un éternel recommencement avec la séduction, les mensonges. Et le manipulateur, il orchestre. Voilà, ce sera toujours...
C'est un cycle.
C'est un cycle. C'est un cycle.
Une sorte de cycle, oui. Qui revient...
C'est spontané, c'est naturel.
Éternellement. Enfin, éternellement.
N'est pas consciente de ses manipulations.
Oui.
Non, il projette son propre mal-être.
Il y a des phases où la personne est gentille et puis elle redevient méchante.
Ben oui, c'est pour cette raison que la personne qui se dit victime ne comprend pas. Elle se dit, mais cette personne a tout fait pour moi. Elle m'aime, elle me donne des preuves. Et après, c'est un cercle qui recommence.
Et oui, et ça touche beaucoup de monde, que ce soit dans le boulot, en famille, au niveau affectif, hein, vous êtes bien placé puisque c'est votre métier, Marie-Ange. Alors la personnalité narcissique, en fait, c'est comme un adulte, parce qu'on a parlé des enfants, c'est un adulte tyran. Les personnes perdent l'estime de soi au fur et à mesure et de la relation aussi. Finalement, on ne croit plus dans cette relation après.
Et pourtant,
la confiance est importante.
Oui, et pourtant, les personnes, tant qu'elles ne sont pas conscientes réellement, elles s'accrochent, elles restent dociles face à l'emprise dont elle est la proie. Et toute la complicité de leur relation réside dans ce fait. Or, je précise à nouveau, ça peut être un homme comme une femme. Et même Alberto Egger, dans ses recherches, dit que la victime est complice du pervers narcissique, inconsciemment. Voilà, vraiment inconsciemment. Il décrit même la complicité silencieuse de la victime qui minimise l'impact psychologique. Il ou elle semble conscient du mal-être de son origine, mais ressent un attachement viscéral par rapport à cette personne.
Il y a une attitude qui fait qu'on tombe amoureux de son bourreau.
De son bourreau.
Ça s'explique, c'est un syndrome. Hein.
C'est
un syndrome qui est difficile. Bon, évidemment, la victime reste quand même une victime, Marie-Ange.
Oui.
Pourquoi elle ne part pas, elle ne s'éloigne
pas. Elle
ne
peut pas s'empêcher de revenir, parce que la personne atteinte de troubles pervers narcissiques s'est maîtrisée par les mots, mais aussi par les attitudes. Et cela fonctionne comme une véritable organisation. On appelle ça l'organisation perverse. Oui.
Ah, c'est carrément une organisation.
Oui. Inconsciente, hein. Inconsciente,
oui, oui.
Puisque la personne...
Mais lui, il est conscient, le pervers, ou la perverse.
Non, pas spécialement.
Non
plus.
D'accord.
Non.
C'est des...
Il projette son propre mal-être.
Alors, qu'est-ce que vous appelez l'organisation perverse?
Alors, c'est des compliments, comme on disait auparavant, la valorisation de sa victime, la bonne dose pour la faire rester et l'accrocher, et aussi, en développant une relation d'emprise... qui est le moyen pour la personne atteinte de troubles pervers narcissiques d'expulser hors de lui ses angoisses, ses contradictions diverses. Et par incapacité de savoir les gérer, c'est comme un dysfonctionnement psychique. La personne projette son mal-être.
Voilà, peut pas faire autrement.
La seule façon, non.
Non.
Pas conscient.
Eh bien, on n'est pas sorti d'affaire. Donc demain, Marie-Ange, on va continuer à parler de ce problème de perversion narcissique avec vous. Et puis, on peut bien sûr podcaster notre chronique Bella Anima.
À demain.
À demain. Marie-Ange Coux, qui est avec nous sur RCFM, et on avance avec vous, hein, on aborde divers sujets,
parce que
c'est votre métier. Alors, on continue à parler d'un sujet, on en entend beaucoup parler, il y a des films qui se font, on peut penser
nous allons proposer des ouvrages aussi.
Oui, tout à l'heure. Alors, on parle de la perversion narcissique. Alors, qu'est-ce que l'origine de ce trouble, l'origine de ce trouble de la perversion, c'est quoi exactement?
Alors, écoutez, les psychiatres et les psychanalystes qui ont étudié la perversion narcissique placent son origine dans l'enfance et dans le milieu familial. Et certaines causes sont admises comme pouvant être parfois l'origine de ce trouble. Et pour Racamier, la perversion narcissique puiserait ses origines dans les familles où évoluerait un noyau pervers. J'ai bien dit un noyau. Il est possible parfois que le futur pervers narcissique, ou la future, évolue dans un environnement où il y a déjà une organisation perverse. Et Heger, lui, s'est attardé sur cet environnement familial. En général, il y règne une éducation sévère, voire une violence perverse, qui se perpétuerait donc de génération en génération.
On refait un peu ce qu'on a vu en famille.
Voilà, une lecture, c'est Les pervers narcissiques de Alberto Heger.
Alors, il est
intéressant.
Nous n'allons
pas en faire
une
généralité, encore
D'accord.
une fois. Il est intéressant. Donc, je répète, une lecture, Les pervers narcissiques de Alberto Heger.
Oui, ce n'est pas une généralité, mais c'est un livre qui peut...
Qui peut orienter.
Qui peut nous aider, quoi.
Mais donc, il est intéressant, ce livre, parce que la personne qui évolue et grandit dans cet environnement développerait une construction psychique instable. Il reproduirait inconsciemment, plus tard, auprès des autres, cette organisation perverse dans laquelle il a baigné.
Oui.
Parce que le pervers narcissique, il a été lui-même un enfant narcissiquement blessé.
Voilà. Il se défend. Eh bien, alors le trouble de la personnalité narcissique sur RCFM avec Marie-Ange Coux, il peut résulter donc d'un sentiment finalement de l'enfant d'inadaptation,
oui.
C'est ça?
Oui. Ces symptômes qui ont tendance à isoler les sujets sont particulièrement douloureux pour la personne, pour l'entourage direct. Un besoin de contrôle important, une tendance à la critique, à l'égocentrisme. Ils acceptent difficilement, voire peu, même pas du tout, aux avis différents. Ils n'ont pas conscience des besoins des autres.
Pas de remise en question.
Ni des effets de leur propre comportement sur leur entourage. Pour eux, inconsciemment, ce sont des mécanismes de défense et de protection.
Difficile à vivre pour la personne en face.
Oui.
Alors vous dites des protections, ils se protègent ?
Oui, le mécanisme de défense est une notion de la psychanalyse issue des travaux de Freud. Il s'agirait de toutes les opérations de protection psychique mises en place inconsciemment par l'individu pour assurer sa propre sécurité. Et ce mécanisme naturel chez lui, c'est qu'il est incapable de gérer toute contradiction interne, ce qu'il explique, encore une fois, je l'explique, qu'il tente de les faire couver chez l'autre, il projette.
Projette son mal-d'être.
Ouais, il projette son mal-être. Il accuse l'autre de sa propre problématique. S'il est jaloux, il va accuser l'autre, il va l'accuser d'être jaloux.
Ouais. Bon, écoutez, on commence à mieux cerner le problème de la perversion narcissique, qui est quelque chose de grave.
Oui.
Quand elle est vraiment définie, évidemment,
oui.
Avec les vrais critères,
bien sûr.
Parce qu'il y en a beaucoup qui disent...
Oui, c'est trop facile,
voilà.
Oui, c'est même une notion à la mode. Voilà, j'ai rencontré un pervers ou une perverse, donc c'est trop facile, ça se définit pas.
Devant entendre
pas de cette
mal.
Façon.
dans les bureaux,
pas du tout.
Dans votre
bien sûr.
Officine. Marie-Ange Coux, qui on vous retrouve demain.
À demain.
Sur RCFM pour la suite. On n'a pas encore fini avec ce sujet.
Non, on n'a pas fini.
On va continuer. Et on peut podcaster cette chronique sur notre site CFM, chronique Bella Anima.